toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin.
Bonjour à toutes et à tous. Cap sur Nantes ce samedi, dans l'ouest de la France où se tient le Festival des Trois Continents. Depuis 1979, ce rendez-vous d'automne met en valeur et en lumière les cinématographies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'est là, par exemple, que furent découverts le grand cinéaste malien Souleymane Cissé ou le taïwanais Oussao Sien. Pour sa 45e édition, le Festival des Trois Continents rend hommage à la pionnière sénégalaise Safi Faye, morte en février dernier. Et fidèle à sa vocation de dénicheur de talent, le festival projette des fictions et documentaires venus du Kyrgyzstan, du Chili ou du Burkina Faso. Coup de projecteur sur l'une de ses œuvres, Coconut Head Generation, un formidable documentaire tourné au Nigeria sur un ciné-club étudiant, lieu rare d'échanges démocratiques. Et puis à l'affiche de notre cinéma également ce samedi, un reportage sur un cinéma itinérant et flottant au cœur de l'Amazonie.
Comme j'étais la première africaine à oser, on m'a prise à la lumière et puis j'ai fait cinéma et photographie. Et la première année, avant même de terminer, j'ai osé faire un film dans lequel j'ai tourné. Et voilà, on a dit une négresse fait des films.
La voix de Safi Faye, première femme d'Afrique subsaharienne à réaliser un long métrage, c'était « L'être paysanne » en 1975. On l'entend ici donnant une leçon de cinéma lors du festival de films de femmes à Créteil. Safi Faye, morte en février dernier à l'âge de 80 ans, laisse une œuvre fortement empreinte de documentaire. C'est elle que l'on voit sur la très belle affiche du Festival des Trois Continents cette année. Jérôme Baron, le directeur artistique du festival, avait prévu de l'inviter pour parler de son œuvre. Sa lettre était prête, l'encre presque sèche, quand il a appris son décès. C'est ce qu'il m'a dit lorsque je suis allée à sa rencontre à Nantes en début de semaine.
C'est une idée qu'on avait déjà commencé à tramer un tout petit peu l'année dernière. En tout cas, ça faisait partie des rétrospectives en chantier ou en perspective qu'on avait en tête. Puis au mois de janvier, j'ai commencé à lui écrire une longue lettre après avoir revu plusieurs de ses films. J'étais pas très satisfait de la lettre, il manquait quelque chose. Et puis, au moment où je m'apprêtais à lui envoyer la lettre, j'ai appris par la presse son décès. Donc la rétrospective va muer en hommage. Et ce dont on s'est aperçu en travaillant activement à partir du mois d'avril à essayer de rassembler ces films, c'est que ce n'était pas si simple que ça. Qu'ils étaient assez éparpillés et que reconstituer le puzzle Safi Faye est un travail qu'on vient d'entamer, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et puis surtout, il y a des films qu'il va falloir restaurer, numériser, pour préserver la mémoire d'une œuvre qui est absolument essentielle. Quoi. Parce qu'elle raconte beaucoup plus que l'histoire d'une cinéaste sénégalaise. Elle s'adresse aussi à. Elle pose aussi la question de la culturation, de l'exil, de l'appartenance, de la redéfinition d'une identité, tout en étant très attachée régulièrement à revenir dans son Fadjal natal. Et c'est extrêmement précieux. Je pense que c'est une œuvre qui a une force contemporaine au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, qui est absolument sidérante.
Quand vous dites que donc, les films sont dispersés, en même temps, vous montrez tous ces films où il en manque beaucoup ? Non.
Il en manque, il y en a qu'on n'a pas retrouvé. Il y en a un qui est conservé en Allemagne, La récolte est finie, Gomme d'Agdgou, dont la copie est quand même en état précaire. Donc l'arsenal qui a le plus gros matériel disponible concernant l'œuvre de Safi Faye, pour l'instant, en réserve la diffusion. On sait qu'il y a une copie aussi précaire de son premier film, un court-métrage La Passante, qu'elle avait tourné à Paris, qu'on ne va pas montrer finalement. On va montrer à la place un petit film qu'elle avait fait dans le cadre de cette grande émission de télévision qui s'appelait Océanique, qui est une des peut-être une des plus grandes émissions de l'histoire de la télévision française. Et elle avait fait dans un petit magazine un portrait d'une cinéaste haïtienne en exil, avec lequel, pour le coup, il y avait une espèce d'effet de miroir par rapport à sa situation à elle. Alors, elle n'était pas exilée, sa fille Faye, mais elle vivait à Paris, étant sénégalaise, dans ce rapport complexe de... et riche en même temps, parce que là, on n'a jamais fait finalement une sorte de complexe, on en fait une réalité. Je suis entre deux pays, entre deux cultures, moi-même à m'interroger sur celle que je deviens, etc. Avec sans doute une petite pointe de mélancolie là-dedans, mais aussi beaucoup de résistance et nécessité à repenser cette situation-là.
La rencontre de Safi Faye avec le documentaire, enfin avec le cinéma même en général, on a le sentiment qu'il y a une part de hasard ou une part de chance, parce qu'à la base elle était enseignante, issue d'une famille, je crois, de 6 ou 7 enfants, une mère analphabète, et des enfants tous incités à bien réussir à l'école, hein, ce qu'elle a fait. Elle a quitté son village de Casamance pour étudier. Puis, donc elle rencontre Jean Rouge, qui l'a fait tourner dans Petit à Petit et qui l'incite à faire du cinéma. Même si elle avait quand même un franc-parler, elle disait « même si j'apprécie pas trop le film, j'ai beaucoup appris », qui fait qu'après elle est partie à Paris faire des études d'anthropologie et de cinéma à Louis Lumière.
Bah oui, il y a des destins comme ça dont on ne sait pas trop comment. Il y a des moments un peu pivots où cette expérience de Petit à Petit, elle a peut-être aussi voulu devenir cinéaste en réaction à l'expérience qu'elle venait de vivre et qui lui avait probablement appris beaucoup, mais en se disant que elle devait aussi trouver sa voie. En tout cas, c'est sûr que elle était très stimulée à partir de ce moment-là pour entamer un parcours d'anthropologie, mais c'était aussi une manière d'approfondir son parcours d'institutrice, de s'interroger sur des outils d'anthropologie. Et puis elle se les est complètement réappropriées dans le cadre du cinéma, parce qu'elle n'est jamais devenue anthropologue au sens universitaire ou académique du terme. Et pourtant, cette vocation de pédagogue, de faire de son œuvre un lieu de questionnement et de savoir, c'est vraiment essentiel. Mais à un niveau intime en même temps, quoi. Qu'est-ce que moi, Safi Faye, sénégalaise, vivant entre deux pays, retournant sur mes terres, voyant ce qui se passe pour d'autres qui, eux, sont, au contraire, font le voyage inverse dans la France, je suis en capacité d'interroger de ce qui se passe. Et elle est toujours, c'est ça qui est sidérant, elle est toujours à l'arrêt précise du moment présent, quoi. Elle tape toujours juste, quoi.
Et évidemment, presque tout naturellement, on a envie de dire, c'est une œuvre documentaire, même son seul film de fiction, Mossane, 1998, oui. Je crois, le portrait d'une jeune fille courtisée dans son village, qui donc doit affaire à plusieurs hommes qui veulent absolument...
Le poids des traditions,
même cette œuvre-là est fortement empreinte documentaire.
Oui, elle est empreinte de documentaire parce que Safi Faye est aussi quelqu'un qui est très attentif à la réalité matérielle des choses, un paysage, une terre, une lumière, des corps, des manières de se déplacer ou d'avancer dans l'espace, etc. Donc elle prend ça, quoi. Enfin, elle le reçoit, elle l'accueille et forcément elle n'est pas dans une situation où elle a envie de modéliser les choses, elle a envie de faire avec les choses, quoi. Et donc forcément il y a toujours une sorte d'empreinte comme ça ou de gang au sens positif du terme documentaire dans ces films, quoi.
Dans les films qui sont dans les films de Safi Faye qui sont projetés ici à Nantes, Jérôme Baron, il y a Fadjal, Lettre paysanne, donc des films vraiment ancrés, on va dire, dans un territoire qui montre aussi une réalité rurale. Je pense aussi aux films projetés en clôture, Selbé et tant d'autres.
Les drames économiques, la sécheresse, la faim, le chômage, l'insécurité du lendemain, toutes ces réalités trouvent leur prolongement dans des drames familiaux qui touchent aussi bien les hommes que les femmes.
Magnifique portrait de femme, d'une femme, mais presque aussi de toutes les femmes.
Oui, puis c'est le B, et d'une certaine manière, déjà, l'être paysanne pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a souvent des personnages féminins, elle parle d'elle-même à travers le regard qu'elle porte sur les autres. Les autres, elles auraient pu être elles. C'est aussi ça, hein, dans les films de Safi Faye qui est en jeu. Et puis, il y a quelque chose qu'on voit. Il y a quand même des gens qui, tout illettré qu'ils sont, paysans, etc., ont déjà une réflexion sur l'économie, se posent déjà des questions sur les devenirs de leur culture et sur les devenirs fonciers de leur culture, à savoir le rapport au sol et à ce qu'il va produire pour qu'on puisse garder un enracinement. Et la question de l'exil et de l'immigration, etc., elle est déjà indirectement posée. C'est-à-dire qu'on voit déjà la chose, on est en début des années 70, et ces problématiques-là sont déjà d'une certaine manière un tout petit peu levées. Dans Selbé, qui est plus tardif, les hommes ont déjà en grande part, il ne reste plus que les vieux, les hommes d'âge moyen, ils sont déjà partis travailler à Dakar pour certains, d'autres sont probablement partis plus loin, on est vraiment, enfin, c'est stupéfiant, quoi.
Selbé, elle a, je crois, 7 enfants, enfin, elle en a 8, un qui est mort en bas âge, 7 enfants, et Safi Faye montre des gestes répétés, le travail est tout le temps en action, tout le temps au travail, travailler à la cuisine, façonner une calebasse. Et ça pose aussi la question du patriarcat, sans que le mot même soit prononcé.
Oui, ça le pose. Et en plus de ça, là, on voit bien qu'en l'absence des hommes, elles sont livrées elles-mêmes. Elles ont assumé tout ce qui fait que la vie peut encore exister. Et elles sont donc au champ, elles sont donc à la cuisine. Enfin, elles font tout, en réalité. Et s'occuper des enfants, du fait que souvent les papas soient pas là ou occupés à autre chose. Mais il y a aussi une sorte de renversement. On est dans une société qui, a priori, est patriarcale, mais on voit bien que, d'une certaine manière, c'est les femmes qui ordonnent le monde, quoi. Elles les ordonnent en étant à la fois soumises à des tâches répétitives et harassantes, et elles témoignent aussi de cet épuisement ou de cette obligation de répondre tout le temps à une nécessité. Et puis, en même temps, elles sont les garantes de ce monde. Il y a quelque chose de très émouvant dans la porosité qu'il y a entre ces deux dimensions, quoi.
Jérôme Baron, vous le disiez, donc là on est ici au Festival des Trois Continents, les films de Safi Faye que vous projetez, elle a commencé à tourner dans les années 70, son dernier film date de la fin des années 90, mais donc c'est des films qui ont, on va dire, plus de 40, 30 ans. Ils nous parlent encore, il y a une actualité forte de ce que vous voyez, parle au public.
Alors je pense qu'il y a deux choses qui nous parlent, c'est que, un, d'abord, pour beaucoup de gens ici, ils les découvrent. Donc ils sont interpellés par, je pense par la clarté, la précision et l'intelligence cinématographique de Safi Faye, tout bêtement. Elle est cinéaste, au sens fort du terme. Elle a un vrai projet et elle le réinvente et le continue dans des conditions très variées, d'un film à l'autre. On sent tout ça articulé de manière très cohérente. Et puis en même temps, oui, au regard de ce qu'est la paysannerie africaine aujourd'hui, dont on voit bien que, au regard des changements climatiques qui vont avoir lieu, de cette immigration qui a déjà commencé, mais qui risque de s'intensifier dans les années à venir pour des raisons qui vont être très difficiles de survivre ou de faire survivre une culture dans des endroits où, de toute façon, plus rien ne pousse. Et puis la question de l'économie, elle est déjà posée par ces paysans sur comment on va s'organiser dans un monde qui est en train de changer, nous, pour s'adapter. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de partir. Enfin, on est là chez nous, mais est-ce qu'on va pouvoir être là chez nous longtemps au regard de ce qui est en train de se passer ? Et ce sont des questions qui sont une actualité. On parle que de ça, quoi.
La projection de Selbé et tant d'autres, elle s'accompagne d'un ciné-concert, c'est ça ?
Bah oui, la soirée de Palmarès a pour particularité de se passer à Stéréolux à Nantes, qui est un lieu de diffusion et de production musicale. Donc on a à chaque soirée de Palmarès une sorte de partenariat. Nous, on amène du cinéma et eux amènent de la musique. Et donc il y a une formation nantaise, Black Bush Orchestra, qui est issue d'un collectif qui s'appelle Abstract, qui a commencé à travailler sur le film cet été. Et on découvrira donc leur création autour du film à la soirée de clôture.
C'est le collectif Black Bush Orchestra, dont on entend ici le titre « Sortez les filles », qui accompagnera demain soir la projection du film de Safi Faye, Selbé et tant d'autres, le film projeté après la cérémonie de palmarès du Festival des Trois Continents. Outre cet hommage à Safify, le Festival des Trois Continents braque cette année ses projecteurs sur le cinéma vietnamien, projette aussi 10 films en compétition internationale. Et puis ce sont des séances spéciales où l'on peut voir plusieurs documentaires africains. C'est dans ce cadre que j'ai découvert Coconut Head Generation, formidable film qui résonne avec nous, étudiants, dont nous vous parlions il y a 2 semaines. Alain Kassanda est un cinéaste originaire de RDC qui a suivi sa compagne au Nigeria, à l'université d'Ibadan, dans le sud-ouest du pays. Partie prenante du ciné-club étudiant, il a filmé toutes les réunions préparatoires des soirées ainsi que les projections pour documenter la vie des étudiants nigérians, mais surtout leurs échanges nourris. Bonjour Alain Kassanda.
Bonjour.
Coconut Head Generation, votre film débute avec une cérémonie très particulière. Nous sommes sur le campus de l'université d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria. Qu'est-ce qui se passe à l'image ?
Donc à l'image, on voit une scène qui répond à l'archive du début du film, qui était l'inauguration de l'université d'Ibadan avec un rituel de passage pour les diplômés. Et là, c'est la même chose, je filme des étudiants qui intègrent l'université. Et c'est un rituel, c'est presque l'équivalent d'un bizutage en fait. Donc ils intègrent le hall dans lequel ils vont vivre et donc ils sont bénis comme ça dans un rituel un peu syncrétique avec de l'eau bénite par des anciens du home d'habitation.
C'est ça, on dirait presque un baptême en fait.
Exactement, c'est presque un baptême pour les intégrer à la communauté des étudiants qui vivent dans ce dortoir-là.
Pourquoi avez-vous choisi, Alain Kassanda, de filmer dans cette université créée en 1948, donc au Nigeria, alors sous administration britannique ?
J'ai filmé là-bas parce que j'y vivais. J'ai vécu 4 ans au Nigeria, à Ibadan précisément. Ma compagne était anthropologue. Elle a eu un poste de recherche dans les locaux étés à l'université d'Ibadan. On y était. On vivait à un quart d'heure de la fac. Donc j'étais tout le temps et j'étais surtout partie prenante d'un ciné-club étudiant, Thursday Film Series, créé en 2015. Et à partir de 2016, j'ai commencé à filmer les étudiants, filmer les discussions qui étaient passionnantes. Et je voulais absolument archiver cette parole-là qui allait disparaître si on la préservait pas. Et l'idée du film est venue petit à petit.
C'est un film à la fois sur des étudiants cinéphiles, mais en fait, ça va beaucoup au-delà, parce que les films sont des supports à toutes sortes de discussions.
Oui, complètement. Le ciné-club faisait office de médiathèque, en fait. Pas de médiathèque, mais de cinémathèque, plutôt. Parce qu'il faut savoir que le Nigeria est un pays qui a une industrie cinématographique, avec une production locale, donc l'Hollywood. Mais dans les grands cinémas, dans les multiplexes à travers le pays, majoritairement sur des films américains, des blockbusters américains qui passent. Et le ciné-club devenait un espace dans lequel on pouvait voir des films qui n'étaient visibles nulle part ailleurs. Donc on a vu des films de Sam Benusman, des films de Dreyer, des films de Vittorio De Sica, des films de Chaplin, et aussi beaucoup de films africains qui justement amenaient les étudiants à utiliser le cinéma comme un prétexte pour aborder leurs propres conditions. Donc les films étaient devenus au bout d'un moment un prétexte pour discuter de la condition étudiante.
Effectivement, ce que vous montrez Alain Kassanda, c'est que donc, les membres de ce ciné-club, donc vous étiez partie prenante, vous décidez des thématiques avant de choisir les films.
Oui, il y avait ce qui était intéressant dans ce ciné-club-là, c'était la manière dont c'était aussi une espèce de centre de formation, à la fois en termes d'organisation, mais aussi sur le plan politique, dans le sens où les étudiants se répartissaient la tâche. Un groupe s'occupait de la logistique, l'électricité étant un problème. Le film s'ouvre d'ailleurs sur 2 étudiants qui amènent un générateur pour lancer la séance. Donc certains s'occupaient de l'essence, du générateur, d'autres de la communication et d'autres de la programmation des films. Et d'un mois sur l'autre, les équipes tournaient. Ceux qui programmaient passaient à la logistique, et c'était la logistique passe à la communication, ainsi de suite.
Vous l'avez un peu abordé, c'est une programmation de ce ciné-club qui comprend des classiques du cinéma mondial, mais aussi des classiques du cinéma africain qui, sinon, ne sont pas montrés.
Oui, c'est un des paradoxes, en fait, du cinéma africain, c'est qu'il est pas forcément vu là où il devrait être vu le plus, ni à la télévision, ni au cinéma. Les films africains, je parle des classiques de Sam Benusman notamment, parce qu'on a beaucoup passé ces films, notamment Borom Saré, La Noire 2, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Énormément d'étudiants les découvraient, en fait. Ils découvraient ces cinéastes-là. On a passé un film de Ramadan Suleiman aussi, Zulu Love Letter, c'est un cinéaste sud-africain. Et ça, c'est des trajectoires qui sont des films qui sont rarement montrés sur le continent, en tout cas dans les villes, dans les universités. Et le ciné-club devenait un lieu dans lequel on pouvait se nourrir, s'éduquer à à l'image, mais aussi renforcer des idées, parce que les films étaient des prétextes à un échange plus profond sur la réalité sociale et politique, et c'était un endroit où on pouvait exprimer une opinion sans forcément avoir peur des répercussions, notamment sur des thèmes, des questions sensibles comme l'homosexualité ou des étudiants. J'ai un exemple d'une étudiante qui a fait un coming out au ciné-club. Elle savait qu'en le faisant, elle ne risquait pas d'être stigmatisée. Et au contraire, elle a été acceptée et félicitée pour ce courage-là. Dans un pays où c'est aussi puni par la loi, avec des espaces comme ça, pas propres au ciné-club, mais aussi à Lagos, il y a des espaces où il y a une tolérance, une ouverture qui est très grande et très belle. Et donc, c'était un espace vraiment d'échange et de formation politique.
Ses racines fleurissent. La beauté involontaire des animaux et des plantes éclaire un visage de jeune fille. Et nous pouvons bien prendre sa lumière pour un sourire ou même son huile pour une larme et nous émouvoir, à condition de bien savoir que ces images nous ignorent, qu'elles sont d'un autre monde, que nous n'avons rien à faire dans ces conciliabules d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Nous voulons y voir de la souffrance, de la sérénité, de l'humour, quand nous n'en savons rien. Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne nous voient pas.
Un extrait du documentaire d'Alain René et de Chris Marker, Les statues meurent aussi. Ce film, Alain Cassanda, il résonne avec la thématique de la restitution des œuvres d'art africaines pillées, enfin, et donc restituer dans les pays.
Oui, complètement. En fait, cet extrait-là est né d'une scène que j'ai filmée dans laquelle les étudiants réfléchissent au thème qu'ils vont aborder. Et à un moment donné, se pose la question des œuvres d'art pillées pendant la colonisation et qui sont aujourd'hui exposées en Angleterre. Quand vous allez à Ifé, par exemple, au musée d'Ifé...
C'est où ? Donc au Nigeria ?
Au Nigeria, donc dans le sud-ouest du Nigeria. C'est vraiment le lieu de naissance de la religion et de la culture Yoruba. La plupart des bronzes magnifiques, d'ailleurs qu'on voit dans les statues meurs aussi, sont au British Museum. Et ce que j'ai voulu faire, moi, c'était montrer notamment cette scène-là comme une espèce de résonance entre le fait qu'il parle de la nécessité de récupérer les œuvres d'art et d'en faire ce qu'on veut, parce qu'il ne s'agit pas de poser une capacité de conservation européenne à une indigence des musées africains. C'est-à-dire que le crime a été de les piller. Et donc la justice consiste à les récupérer et à les remettre aux communautés d'où elles ont été prises. Après, la question est vaste. Je n'ai pas forcément les compétences pour aborder ça, mais ce qui m'importait, c'était de savoir à quel endroit les étudiants se situaient par rapport à ces questions-là. Et d'illustrer ça à travers le film de René, qui vraiment pose la question plus large de la colonisation, mais sous le prisme de l'art africain.
On est aussi... fasciné par la qualité des échanges entre étudiants. Ça débat beaucoup, et notamment effectivement sur la question de la restitution des œuvres d'art. Il y a un étudiant qui dit, voilà, l'argumentaire occidental visant à dire on rechigne à vous rendre les œuvres d'art parce qu'on ne sait pas si vous aurez les capacités de les conserver dans un bon état. Voilà, il dit après tout, rendez-nous et on en fait ce qu'on veut, c'est nous les...
C'est un argument néocolonial, en fait, qui consiste à dire vous n'êtes pas digne, finalement, de votre patrimoine. Ouais. Et justement, se réapproprier ce récit-là, c'est important. C'est-à-dire que non, au final, le fait que... C'est même pas la question de la conservation qui est en jeu. C'est la question de la propriété. Ouais. Et là, ça coupe tout le débat.
Vous montrez aussi, il y a un extrait de Mobutu, roi du Zaïre.
Oui, il y a un extrait du film de Thierry Michel, Mobutu, roi du Zaïre, qui nous a intéressés parce que là, il y avait un lien étonnant. C'était beau parce que le jour où on a montré ce film-là, des étudiants m'ont demandé de faire un film sur Sani Abacha. Parce qu'ils voyaient immédiatement le lien. Sani Abacha, c'est un dictateur. Il y a eu plusieurs régimes dictatoriaux au Nigeria, mais le pire, c'était Abacha, qui a régné entre 93 et 98. Il est arrivé sur un coup d'État. Et il est mort en 98, et c'est après sa mort que le Nigeria est passé à une démocratie en 99, donc avec une alternance qui passait par le vote. Mais aujourd'hui, c'est une démocrature, comme on l'a vu après en 2020 avec les émeutes and stars qui ont été réprimées par le sang.
Mais ça, on y reviendra à Alain Cassanda, mais... Vous êtes d'origine congolaise, c'est vous qui avez suggéré ce film-là ?
Alors pour le coup, Mobutu Relugé, c'est moi qui l'ai suggéré aux étudiants, et parce qu'on voulait, ils avaient d'autres idées de films, et là j'ai proposé Mobutu parce que c'était un film qui parlait de mon pays, qui parlait du Zaïre, et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point les régimes dictatoriaux se ressemblent, en fait, dans les mécaniques, dans le culte de la personnalité. Il y a un extrait dans lequel Mobutu dit que son peuple l'adule, son peuple l'aime, l'adore, et sauf que les gens sont là parce qu'ils sont contraints d'être là. grand-mère a été vendeuse au marché. J'en parle dans un autre film qui s'appelle Colette et Justin. Elle me racontait que les jours de meeting du président, elles étaient contraintes de ne pas vendre au marché pour se retrouver aux abords des rues ou au stade pour acclamer le dictateur. Donc il n'y a pas du tout d'amour à ce moment-là, c'est juste une contrainte. C'est le syndrome de Stockholm de la population qui est un peu contrainte d'applaudir à son oppresseur, quoi.
Donc on le disait dans les thèmes, la restitution des œuvres d'art, l'intégration des minorités, notamment sexuelles, hein, toute la question des minorités LGBT, l'intersectionnalité, la décolonisation. Finalement, les préoccupations de ces étudiants nigérians ressemblent à celles de la jeunesse mondiale, enfin des campus d'Harvard ou de la Sorbonne.
Oui, c'est ce qui est beau et c'est et l'étonnement qu'on peut avoir en France parfois à ça, en dit long sur l'ignorance qu'on a des réalités africaines. Et le cinéma est un art qui permet justement de changer les imaginaires et amener tout d'un coup ces représentations-là, montrer des étudiants africains qui pensent et qui ont les mêmes références, qui sont connectés de la même manière, ça permet aussi de penser le monde depuis les Suds, depuis l'Afrique. Tout d'un coup, l'exemple de courage, d'intelligence vient du Nigeria, il vient du Congo, vient de Centrafrique comme dans nous étudiants. Et c'est vraiment important de sortir de ce rapport-là néocolonial, de condescendance par rapport aux anciennes colonies et se dire que l'exemple et l'intelligence vient toujours du Nord, que là non, malgré les défaillances du système éducatif nigérian, l'université produit quand même des gens brillants. Et malheureusement, ces gens brillants, le système ne les retient pas. Par exemple, les étudiants les plus brillants du film, les plus en avant, sont aujourd'hui à l'étranger. Beaucoup d'entre eux sont soit aux États-Unis à faire des thèses, notamment à Harvard, soit en Angleterre. Et c'est aussi un des drames du système éducatif nigérian qui, là, une des premières réformes du président Bola Tinubu, quand il a été élu, c'était d'augmenter considérablement les frais d'inscription. Et la parade, c'était de créer une banque qui va faciliter les prêts étudiants. Donc, tout d'un coup, l'éducation n'est plus une mission des services publics, mais devient un marché. C'est vraiment le capitalisme dans son essence. Donc, on transforme un système qui est déjà défaillant en machine à fric pour l'élite.
On y reviendra sur ces questions-là, effectivement, qui sont fondamentales. Mais dans les discussions, ce que vous montrez, vous montrez d'ailleurs, il y a un long passage, enfin assez long, en tout cas un échange... très intéressant, où nous, spectateurs, on peut être d'accord en fait avec les deux parties, enfin on peut comprendre, sur le féminisme, hein, entre une jeune fille, une jeune femme très engagée, très offensive, et un garçon qui dit mais faut pas exclure les hommes. Et c'est très intéressant leur échange.
Oui, cette scène-là est très belle, je l'ai gardée, elle est très longue, elle dure... 8 minutes, je pense, c'est la séquence la plus longue du film, des échanges, mais je voulais absolument la garder dans sa durée pour aussi restituer la nature des échanges. Ils n'étaient pas tous consensuels, et ils étaient parfois houleux, mais ils donnaient surtout la parole à chacun et chacune. Et ce que je voulais montrer là-dedans aussi, c'était à quel point les femmes, les filles, ont une place primordiale dans le dispositif. C'est un ciné-club féministe dans lequel les étudiantes ont un rôle à la fois important dans l'organisation mais aussi dans la prise de parole. Et là, en l'occurrence, c'était une discussion sur le patriarcat autour de deux films d'un cinéaste camerounais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marie Thénault. Donc c'était Chef et Le mariage d'Alex, un type qui est marié et qui prend une seconde épouse. Et la discussion est tournée autour du patriarcat. Et il y a finalement des divergences d'apparence, mais au final, il y a les garçons qui disent que le problème, c'est le patriarcat, mais Deyo, qui est féministe, qui va beaucoup plus loin qu'eux, en fait. Sauf qu'elle a une manière assez cassante de reprendre et elle remet en question le fait que c'est pas tout de dire que le problème c'est le patriarcat, c'est en tant qu'homme, est-ce qu'on se remet en question aussi dans nos billets, notamment la manière d'appréhender les questions féministes. Et ça, c'était des arguments qui sont pas toujours audibles parce que ça vient non pas mettre de côté les hommes, mais ça les met face à leur responsabilité aussi de se questionner eux-mêmes de leur positionnement par rapport au féminisme.
Oui, elle les exhorte aussi à penser à l'éducation des garçons.
Exactement, la question c'est pas, il faut pas protéger les femmes, il faut éduquer les hommes autrement à ne pas être des agresseurs, à ne pas être des machistes, voilà.
Alors, vous le disiez, Alain Quinsonna, vous l'avez un peu abordé, on le disait, cette jeunesse, eh bien, elle a les mêmes préoccupations, les mêmes niveaux de réflexion que partout ailleurs, mais il y a quand même des spécificités au Nigeria et qui sont d'ailleurs assez semblables à ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec le documentaire de Rafiki Fariala, Nous étudiants, donc en Centrafrique. Et ici aussi, au Nigeria, se pose la question, les questions des précarités, des conditions de vie, le fait qu'il n'y a pas de perspective d'emploi. Et là, si vous le dites en plus, que les frais d'inscription à l'université ont terriblement augmenté.
La situation économique au Nigeria s'est dégradée depuis le moment où j'ai fait ce film, dans le sens où la trajectoire du film couvre 3 années. Les 2/3 du film se passent en 2019, ensuite il y a 2020 et 2021. Parce qu'il y a eu entre-temps la crise du Covid, il y a eu une grève des enseignants qui a duré 9 mois, parce qu'ils avaient des salaires non payés, des arriérés, des primes non payées. Donc ils sont partis sur une grève illimitée en 2020, il y a eu le Covid. Une des conséquences du Covid notamment, ça a été l'inflation et la guerre en Ukraine aussi, la dévaluation du Naira. Quand je suis arrivé au Nigeria en 2015, un dollar équivalait à 200 Naira. Aujourd'hui, un dollar, c'est 1000 Naira. Le gouvernement récemment encore a arrêté de subventionner les prix à la pompe. Quand vous voyez le système, le réseau d'électricité au Nigeria qui est très défaillant, la classe moyenne a besoin, les entreprises, l'université, on ne peut rien faire sans générateur. Donc les générateurs fonctionnent au pétrole, à l'essence. Et donc ça a pour conséquence, en tout cas l'arrêt des subventions, la dévaluation a eu une inflation extraordinaire, ont pris les gens à la gorge. Et à cela s'ajoutent les frais d'inscription qui augmentent, sans forcément une qualité d'enseignement soit corroborée à ces frais d'inscription-là. Donc ceux qui peuvent partent. Il y a une fuite des cerveaux au niveau des étudiants, mais aussi du personnel médical. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de médecins quittent le pays depuis un moment. Donc la situation est vraiment difficile et s'ajoute à une situation déjà précaire. Dans le film, il y a une séquence dans laquelle, au Bayomi, un jeune photographe qui était diplômé de l'université de Lagos, UNILAG, a fait un projet qui a eu un bel écho, parce que National Geographic l'a primé, sur les conditions d'hébergement à Lagos, à la fac publique de Lagos. Et il est venu présenter son travail de photographique à Ibadan. Et j'ai filmé cet échange avec les étudiants, parce que c'était une mise en abîme. Ils voyaient sur l'écran leurs propres conditions d'hébergement à la fac. Ça donnait lieu à des discussions passionnantes qui, à la fois, parlaient du présent, mais aussi remontaient aux années 70, à la première crise économique au Nigeria, qui a aussi été le déclenchement de la dégradation du système et d'une corruption généralisée au sein de l'institution universitaire. Ce qui fait que l'argent est là, mais la fac monétarise les logements dignes et donne à ceux qui n'ont pas les moyens des logements indignes.
If the canon assures of reforming the Nigerian police, there's no need to have Nigerian police. What we have is a British colonial system of Nigeria.
Et puis, Alain Cassanda, vous filmez le grand mouvement social. Alors, je crois que c'est en octobre 2020, End SARS. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous le resituer?
Alors SARS, c'est Special Anti-Robbery Squad. C'est une unité de la police créée en 92 à Lagos, au départ pour lutter contre les braquages à main armée. Et, sauf qu'avec le temps, ils se sont autonomisés et ils sont devenus même un problème. Dans le sens où ils opéraient sans uniforme. Au départ, c'était uniquement à Lagos. Et 10 ans plus tard, en 2002, il y a eu des unités SARS dans tout le pays. Et ils se sont rendus coupables d'arrestations arbitraires, de rackets. Ils faisaient régulièrement des barrages routiers et ils rançonnaient les automobilistes sans motif, viols, tortures dans les commissariats et exécutions extrajudiciaires. Il y a eu beaucoup d'appels à démantèlement de cette unité-là. Et en 2020, plusieurs vidéos, dont une a été vraiment virale, a circulé sur Twitter, dans laquelle on voyait dans le sud-est du pays un jeune homme se faire fusiller, exécuter et les policiers partir avec son véhicule devant un hôtel. Et ça a été tellement graphique, tellement violent, tellement choquant que la vidéo a été partagée des millions de fois sur Twitter et le mot d'ordre, le hashtag #EndSARS a ressurgi. Et sauf que là, ça a pris. Des personnalités importantes comme Kanye West aux États-Unis, un peu influentes, ont partagé ça. Et le mouvement est passé très vite de la toile à la rue. Ce qui était aussi inédit, parce qu'on était quand même pendant le Covid avec un couvre-feu et des interdictions de circulation. Et les gens ont défié ça, en sachant que le Nigeria est un pays qui a quand même connu des décennies de dictature militaire. Donc défier le pouvoir, c'est pas anodin, c'est pas sans risque non plus. Et donc les gens sont descendus. Et la beauté de ce mouvement, c'est qu'il était d'une part non violent, il était aussi acéphale dans le sens, il n'y avait pas de leader identifié, il était porté par des revendications politiques et sociales qui excluaient toute séparation ethnique ou religieuse ou de genre. Et les mouvements avaient plusieurs plateformes de revendications. Au départ, c'était le démantèlement de l'unité SARS, très vite les revendications plus sociales contre la mauvaise gouvernance et l'absence de perspective d'avenir. Parce que ce qui attend la majorité des étudiants après les études, c'est quand même un chômage de masse. Le chômage des jeunes est quand même plus de 50%. Les violences policières, c'est juste un bout de l'iceberg. On commence à descendre sous l'eau. Et là, la réaction a été immédiate. L'armée est arrivée à Lekki, donc c'est un quartier riche de Lagos, où les gens se regroupaient autour d'un péage et attiraient dans la foule le 20 octobre, faisant des dizaines de morts. Sauf que très vite, il y a une campagne de négation de ces crimes par l'État. C'est seulement le courage de ceux qui étaient là, qui ont témoigné avec les vidéos à la charge et qui ont pu démontrer qu'il y avait des morts. Donc ça a eu un impact dévastateur. Ça a été un événement à la fois beau, inédit, mais aussi extrêmement traumatique pour les jeunes qui, pour la plupart, n'avaient pas connu la dictature militaire. C'est la génération de leurs parents. Et ils pensaient naïvement que descendre de la rue, comme ça a été le cas aux États-Unis et partout dans le monde, suite à la mort, à l'assassinat de George Floyd, allait pouvoir faire bouger les lignes. Ça a bougé un peu, mais le backlash a été extrêmement violent.
Mais ce que vous dites, enfin, vous faites le comparatif avec les États-Unis, en France aussi, il y a eu des manifestations contre les violences policières, dont beaucoup disent qu'elles se font sur une base raciste. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'au Nigeria aussi, il y a les revendications contre des violences policières et qui sont comprises comme étant un héritage de l'époque coloniale.
Oui, complètement. C'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un caractère universel en fait aux discussions qui étaient dans le ciné-club. Parce que dans le montage du film m'a amené à dire une chose, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de certains films et pas d'autres, c'est que je voulais absolument dans le film montrer que toutes les questions qui étaient débattues pendant Anne-Sars l'étaient déjà en fait en amont, notamment dans le cadre du Ciné-Club, mais qui est juste une chambre d'écho des discussions de la société nigériane, et que le mouvement n'est pas arrivé comme ça par hasard. Et la question du patriarcat, des luttes féministes, des violences policières sont discutées selon les mêmes modalités au Nigeria qu'aux États-Unis qu'en France. Parce que c'est une jeunesse qui est interconnectée, qui lit les mêmes ouvrages. Audrey Lord, Angela Davis, Gramsci sont lus à Ibadan par les étudiants. Et c'est des références communes. Et ils sont aussi extrêmement connectés sur Internet, et ils voient ce qui se passe aux États-Unis et ils se disent que effectivement, si un George Floyd est assassiné parce qu'il est noir, nous en tant que jeunes Nigériens, c'est pas parce qu'on est noir, parce que c'est des Nigériens qui les tuent, mais c'est parce qu'on est jeunes, parce qu'on est perçu comme des il y avait un profilage en fait des SARS, des jeunes. Dès lors qu'on avait un jeune à des locks ou des tatouages et qu'il y a un téléphone, un iPhone ou un ordinateur, ils sont pris pour des escrocs sur Internet et profilés. Mais les femmes étaient aussi beaucoup profilées. Il y a eu aussi une dimension genrée aux manifestations. Parce qu'on mettait beaucoup en avant les victimes masculines des violences policières, alors que beaucoup de femmes ont été aussi violées, assassinées par les SARS. Et ça ne se limite pas qu'aux SARS, d'ailleurs, les violences policières. Il y a beaucoup d'autres corps de police sont responsables d'assassinats de la jeunesse. Et donc, du coup, descendre dans la rue devenait important. Et ce qui m'a plu, notamment à Paris, lorsque le film a été montré à Cinéma du Réel, c'est à quel point la question des violences policières telles qu'elles étaient débattues au Nigeria faisait écho aux violences policières vécues en France, qui, comme aux États-Unis, ont une dimension de classe et de race indéniable. Elles sont systémiques en France. La plupart des gens qui sont tués par la police en France le sont lors de contre le faciès. Le dernier exemple en date, c'est Naël. Ça, c'est quelque chose de systémique et qui renvoie aussi à l'héritage colonial. Le racisme systémique en France est une des conséquences de la colonisation. La police, la manière dont la police a été construite et structurée au Nigeria est une conséquence de la colonisation. Donc tous ces problèmes-là sont liés.
Alain Cassanda, on a l'explication du titre de votre film qui est à la fin, donc Coconut Head Generation, ça veut dire génération tête noix de coco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça fait référence?
Oui, complètement. C'est une insulte en fait. Coconut Head, c'est quelqu'un qui a la tête dure et creuse, un peu comme noix de coco. Et donc ces jeunes-là se sont appropriés cette insulte pour revendiquer leur capacité à penser. Et c'est dire qu'ils ne peuvent pas être réduits à ça.
Alain Cassanda, dont le film Coconut Head Generation fait partie de la sélection du Festival des Trois Continents cette année. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Le choix de notre réalisatrice Apolline Verlon se porte cette semaine sur Les Garçons de l'Escope.
Dans un été suffocant, parfois il se lève tôt. Il respire le sirocco. Comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots. Voyous, discrets et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salaud. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partant lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt. Ils aiment la vitesse, l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os. Ils se fracassent au volant de leur GTO. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons.
On change de continent pour terminer cette émission. On part en Amérique du Sud, au cœur de l'Amazonie. Le collectif de cinéastes Taouna sillonne trois rivières amazoniennes à bord d'un bateau à énergie solaire pour projeter des films à des communautés autochtones isolées. Leur objectif ? Mettre à l'honneur 29 productions tournées en Amazonie, en majorité par des réalisateurs et réalisatrices de la zone, et renforcer ainsi le dialogue entre les communautés. Reportage signé Juliette Chénion.
À une dizaine d'heures de voiture et de bateau de la capitale Quito, la communauté de Sarayaku. 1500 habitants vivent ici, au bord d'une rivière marron, encerclée par la végétation luxuriante. C'est la première étape du festival de cinéma flottant Kanua. L'équipe et le matériel sont transportés à bord d'une barque surmontée de panneaux solaires. Angel dirige le bateau.
On va faire 377 km.
On va faire 377 km, 7 communautés. Sur l'embarcation, il y a des panneaux solaires flexibles qui fournissent de l'énergie à des batteries qui vont servir à alimenter la projection des films.
Avant le début des projections, l'équipe du festival organise des ateliers de découverte du cinéma. Sur la place du village, les jeunes apprennent à manier un appareil photo et une caméra.
Une, deux, trois. Eso, eso.
Parmi les participants, Amy, 17 ans.
Chez nous, les peuples autochtones, il y a souvent des combats pour protéger nos territoires. Et ce serait fondamental de mieux maîtriser les caméras, car ça nous permettrait de diffuser l'information.
À côté d'elle, un groupe de jeunes profite de la caméra prêtée pour tourner un clip de rap.
C'est du rap en quichua et en espagnol. Ça raconte notre culture, dans laquelle nous essayons de coexister avec la nature qui nous entoure.
C'est tout l'objectif de Sani Montawano, réalisatrice et organisatrice du festival, que les communautés racontent leur propre histoire, loin des clichés.
Souvent, les cinéastes étrangers viennent et ne filment que nos maquillages, nos danses. Mais nous sommes bien plus que cela. Nous avons des hommes et des femmes savants dans nos communautés. Il est temps que nous nous racontions, que nous prenions les caméras et que nous choisissions comment on veut être vu.
La plupart des films de la sélection sont donc réalisés par des cinéastes autochtones d'Amazonie. Le tout projeté sur un écran géant gonflable, une première pour les enfants du village. Tu as déjà vu un film comme ça sur grand écran ?
Non.
Au programme, des fictions, des courts-métrages, des documentaires qui racontent les traditions, la vie quotidienne et les combats environnementaux de communautés amazoniennes.
C'est vraiment super. Un film qui se passe ici, c'est top pour se sentir représenté.
Au total, 27 films sont présentés durant le festival, qui se termine dans 5 jours.
On se quitte en musique avec Gossip, Crazy Again. Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over a thousand times. Did I fall out of favor? Cause you know what I'm like. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Latchley pour son nouveau long métrage, Bâtiment 5. D'ici là, bonne semaine à tous.